LSD, la série documentaire, un podcast France Culture.
Ici commence l'anatomia ou dissection du corps humain.
Dissection anatomie, c'est parce que le mot grec, il faut le préciser, c'est important, c'est anatomé, et c'est le même qui signifie dissection.
Anatomé, c'est couper par le milieu. La dissection, ce n'est pas du grec, c'est du latin, mais ça veut dire exactement la même chose. Donc, au fond, anatomie et dissection sont des synonymes, oui.
Nous devons connaître le corps et ses parties. Cette connaissance procède de l'anatomie, et je vais le démontrer. Je n'utiliserai pas un style savant, mais je vous instruirai en suivant l'opération de ma main.
Alors, c'est un sujet masculin, caucasien, mesure 1m88, qui pèse 96 kg, les cheveux, une barbe poivre et sel, des yeux marrons.
Une fois qu'on a étendu le corps d'un pendu, d'un décapité, il convient, avant d'étudier ses organes, de considérer l'homme dans son ensemble, parce que nous connaissons moins bien l'ensemble que les parties.
Donc il est froid, mais il a été conservé au froid.
Mondino de Liuzzi, Anatomia, Bologne, 1316.
La rigidité est complète. Donc il a des lividités qui sont pas tout à fait fixées. Il y a du matériel noirâtre dans le nez et dans la cavité buccale. Donc là, on travaille à deux mains, comme d'habitude, avec une pince à disséquer dans une main, et de l'autre côté, le bistouri ou le scalpel. Les chirurgiens parlent plutôt de bistouri. Nous, on parle plutôt de scalpel. L'instrument est le même. Ces gestes n'ont effectivement sans doute pas beaucoup changé par rapport aux gestes du passé. L'autopsie en grec, auto et ops, c'est voir soi-même. Donc ce que l'on nous demande, c'est d'aller voir par nous-mêmes pour étudier les structures, les différentes structures anatomiques. Voilà.
Anatomie de la dissection. Un documentaire de Stéphane Bonnefoy et Yvon Croisier. Le geste est ferme, mais précis. Celui-là même qu'Hérophile et Érasistrate ont réalisé au cours de l'Antiquité à Alexandrie, où l'on a disséqué, sans doute pour la première fois de l'histoire, des corps humains à des fins de connaissances anatomiques. Avant eux, on pourrait évoquer les très nombreux cas de trépanation au néolithique, voire le rituel des embaumements égyptiens. Rien de commun en tous les cas avec une pratique d'ouverture des corps telle qu'elle sera menée à Alexandrie, au IIIe siècle avant notre ère, et qui sera abandonnée pour ne reprendre qu'au XIIIe siècle, soit plus de 1500 ans après. Et il faudra attendre la fin de l'époque moderne, voire le XIXe siècle et l'apparition de l'anesthésie, pour que la chirurgie profite réellement du savoir anatomique acquis grâce à la dissection. Partout s'étendait la bataille, et une clameur inextinguible s'élevait. À ce moment, Énée, fondant sur Apharé, fils de Calétor, qui se tournait contre lui, l'atteignit à la gorge de sa lance acérée. La tête s'inclina sous le coup. Le bouclier et le casque sur le guerrier tombèrent, et la mort briseuse d'âme se répandit autour de lui. Antiloque, ayant guetté Thoon, bondit sur lui comme il s'offrait de dos, le blessa et lui trancha la veine qui remonte d'un bout à l'autre du dos et aboutit au cou. Ce fut cette veine qu'il trancha tout entière. Et Thoon, à la renverse, tomba dans la poussière, tendant les mains à ses chers compagnons.
On
Vincent Barras, il y a cette référence troublante d'Homère dans l'Iliade anatomique.
Oui, il y en a plusieurs même de références troublantes pour nous, parce que nous avons l'impression que Homère connaissait l'anatomie comme nous la connaissons, nous, obtenue par les moyens de la dissection. Alors on s'est beaucoup interrogé de savoir sur la manière dont Homère avait pu acquérir ses connaissances, parce qu'il y en a de toute évidence. Dans l'Iliade en particulier, c'est des batailles tout le long, des morts, des javelots, des haches qui transpercent, qui traversent le corps. Et Homère nous décrit des structures anatomiques qui ressemblent à celles que nous connaissons aujourd'hui. Il parle par exemple d'un grand vaisseau qui va le long du dos. On peut se dire, tiens, voilà, c'est sûrement, il avait connaissance de l'aorte, par exemple, ou de la veine cave. On s'est dit, ah, mais alors, il a forcément disséqué, et puis là, il a découvert ça. Donc, lui, de son temps, c'est des connaissances de son temps. Ce qui est là, un anachronisme, dans la mesure où nous avons l'impression que pour connaître l'anatomie comme nous la connaissons, il faut absolument utiliser les moyens dont nous disposons aujourd'hui, à savoir la dissection humaine. Ce qui n'était pas, ça part d'autres moyens, on le sait, le cas d'Homère et des gens à l'époque d'Homère, au 8e siècle ou 7e siècle avant Jésus-Christ. Et donc ces connaissances ou ces notions de l'intérieur du corps proviennent d'autres méthodes que celles de la dissection que la nôtre. Ça, c'est un peu la réponse, un peu insatisfaisante, parce que nous ne pouvons pas dire précisément comment Homère peut nous parler d'un grand vaisseau qui va le long du dos. Par des analogies, avec l'animal, il y a des techniques de boucherie qui permettent aux bouchers du temps d'Homère déjà d'avoir des connaissances qui peuvent être transposées à l'homme ou autre. Ce qui est certain, c'est qu'il n'y a en tout cas pas une anatomie du temps d'Homère comme celle qui est systématique aujourd'hui.
Donc, quand on voit naître la médecine occidentale autour d'Hippocrate, au 5e siècle avant notre ère, il y a manifestement une connaissance de l'intérieur des corps, mais qui est acquise par la dissection d'animaux.
Véronique Boudon-Milot.
Et cette connaissance n'est pas l'apanage des médecins, puisque dans la religion, les prêtres qui pratiquaient l'hiéroscopie, donc et qui regardaient l'intérieur des corps pour en déduire des prédictions, savaient évidemment reconnaître un cœur, des poumons, mais ils ne décrivaient pas déjà ce qu'ils voyaient en termes d'organes, qui est un terme que va utiliser Aristote, parce que quand Aristote parle d'organe, il a déjà compris qu'une fonction est attachée à une partie du corps. Pour les hippocratiques, cette anatomie se réduit finalement, elle est assez descriptive, à distinguer deux grandes cavités dans le corps, une cavité d'en haut, une cavité d'en bas. Et les structures, parce qu'ils décrivent ce que nous appelons organes plutôt avec le terme de structure, n'est pas pensé en termes de fonction. On ne relie pas forcément un organe à une fonction. Il y avait un débat déjà pour savoir quel était le centre directeur, qu'est-ce qui organisait tout cela. Et il y avait deux grandes opinions. Est-ce que c'était le cerveau ou est-ce que c'était le cœur ?
Mais Aristote, lui, ne dissèque pas de cadavres humains. En revanche, à peu près tous les animaux. Et on suppose qu'il n'a pas pu avoir accès à des cadavres humains. Probablement parce que autour du cadavre, il y a toujours des interdits, des tabous. Et ce rituel ou ce tabou est en quelque sorte levé au 3e siècle avant Jésus-Christ par des gens qui ont lu Aristote, qui savent de quoi il s'agit et qui disent on va faire la même chose sur l'humain que ce que on peut faire sur les chèvres, les porcs ou les vaches.
Entre Aristote et Galien, il y a eu quand même une courte période, donc au 3e siècle avant notre ère, où on a pu disséquer des cadavres humains. Et ça s'est passé à Alexandrie. Alexandrie a bénéficié d'un climat intellectuel tout à fait favorable. On a mis à la disposition des médecins des cadavres humains, des cadavres de condamnés à mort, et des dissections humaines ont pu être pratiquées. Ces dissections à Alexandrie ont permis, d'après Galien, donc Hérophile et Erasistrate ont permis de distinguer veines et artères. Hérophile a aussi mis en évidence le nerf optique. Il avait compris des choses sur le mécanisme de la vision. On a aussi des descriptions, cette fois très précises, des os, comment les os s'emboîtent. On a aussi des squelettes qui sont préparés, donc on imagine, hein, brossés, séchés, de façon à servir de base à l'enseignement de l'anatomie, mais on ne peut plus disséquer, très vite on ne peut plus disséquer. Donc on fait avec les connaissances acquises par Hérophile et Erasistrate et on essaye de les améliorer en observant ce qui se passe dans le modèle animal.
Ah, c'est un moment absolument crucial sur lequel on n'a que des témoignages directs. On aimerait bien, on sait qu'ils ont écrit des traités entiers d'anatomie et on sait que le savoir qui est ensuite répercuté dans les siècles suivants provient en bonne partie de cette école d'Alexandrie. Donc il faut la voir comme, non pas comme une sorte de parenthèse, mais comme une sorte d'épisode de la longue histoire de l'anatomie dans laquelle les conditions sont réunies, politiques, culturelles et matérielles, pour pouvoir autoriser certaines personnes, appelées scientifiques anatomistes, à élaborer une anatomie systématique du corps humain. Et systématique, ça veut dire pouvoir disposer d'un cadavre entier et de pouvoir tirer des comparaisons avec d'autres cadavres, soit du même genre, soit avec les animaux, une anatomie comparée. Donc c'est un système épistémologique compliqué, une anatomie. C'est pas juste j'ouvre, et, ah tiens, il y a le cœur qui est ici et le foie qui est là. Faites l'expérience vous-même, je sais pas si ça vous le dit un jour, si vous, ben, vous ouvrez un corps, vous ne voyez qu'un chaos. Vous voyez du sang, des matières visqueuses, ça vous dégoûte un peu, vous savez pas très bien qu'en faire. Il faut au fond avoir une tête très organisé à l'avance au moment où je me lance dans une dissection. S'attendre, c'est pas vraiment une découverte comme on découvrait un inconnu. Et ce chaos-là lui donnait une raison, une fonction, et c'est ce qu'on appellera aussi la physiologie, c'est-à-dire l'anatomie se complète d'une physiologie. La structure se comprend que si on sait à quoi elle sert. Hein.
Après avoir vu l'extérieur, il faut observer les organes internes, le contenu et le contenant. La structure qui contient s'appelle la paroi abdominale et se compose de 5 parties. La peau, la graisse, le panicule charnu, les muscles avec leurs tendons et le péritoine. Incise donc au rasoir depuis l'appendice xiphoïde jusqu'au pubis. Découpe alors la peau latéralement au niveau de l'ombilic à droite et à gauche jusqu'à la colonne. Enlève la peau et tu verras la graisse, bien plus abondante chez le porc que chez l'homme. Derrière le panicule se trouvent les tendons et les muscles, qui sont au nombre de 8, comme le dit Galien dans le 6e livre du De Juvamentis Membrorum. Mondino di Liuzzi, Anatomia.
Donc on est maintenant sur le sujet en décubitus, donc on va pouvoir donc on va faire une incision médiane en fait.
Renaud Bouvet, service de médecine légale du CHU de Rennes.
Qui va du menton au pubis. On va récliner les tissus cutanés sous-cutanés pour exposer la paroi thoracique antérieure et la paroi abdominale antérieure. On dit des bêtises, là. Les bêtises en autopsie, c'est habituel, hein ?
Non, on essaye de garder notre...
De rester, c'est normal, et l'humour permet de... L'humour permet de rester debout, parfois ?
Ouais.
Parce qu'on n'est pas très à l'aise, parce qu'on a peur, parce que voilà, on ne sait pas ce qui va se passer. Alors là, on a resséqué, donc on aborde là toute la paroi abdominale, hein, les muscles grand droit ici, et puis tous les muscles de la cage thoracique, hein, notamment les grands pectoraux qui sont ici. Donc pour poursuivre la dissection, on va juste noter là, en passant, qu'il y a une infiltration sous-cutanée hémorragique en regard du point de ponction cervicale gauche. On n'a pas d'autres lésions traumatiques particulières. Donc on va poursuivre la dissection pour ouvrir maintenant la cavité thoracique et la cavité abdominopelvienne. Donc pour ce faire, Donc on découpe le muscle jusqu'à arriver au plan des côtes. L'idée étant de mobiliser le plastron sternocostal, c'est-à-dire le sternum et les côtes antérieures, d'un seul coup avec la paroi abdominale pour ouvrir en un seul geste le thorax et l'abdomen. Donc là, les côtes sont désormais apparentes. Et on va réaliser une petite incision ici, sous le haut vent costal, pour pouvoir, avec le costotome, eh bien, couper les côtes. Pour rejoindre l'incision initiale. Voilà. On fait comme ça des deux côtés. C'est comme si c'est physique. Voilà. Donc là, on s'est créé un volet là, qui nous permet d'accéder aux cavités. Voilà. J'ai bien une paire de ciseaux. Donc là, on a mobilisé en bloc là, le plastron sternocostal, voilà, donc la partie antérieure des côtes avec le sternum, et puis on poursuit en découpant le diaphragme, ce qui va nous permettre là, de mobiliser maintenant toute la paroi abdominale antérieure. Donc on a accès à l'ensemble des viscères.
Pendant la période qu'on a évoquée à Alexandrie, ça dure une cinquantaine d'années, pendant lesquelles on a pratiqué des dissections, il y a des débats entre différents courants de médecins, entre ceux qui défendaient l'utilité des dissections et d'autres qui les considéraient totalement superflues, que ça n'avait aucun intérêt pour la pratique médicale. Et ben, c'est ces derniers qui ont prévalu.
Raphaël Mandressy.
Et ensuite, c'est seulement à partir du Moyen-Âge tardif, donc vers la fin du XIIIe siècle, le début du XIVe siècle, que les dissections humaines commencent à être pratiquées en Europe occidentale. C'est-à-dire que pendant toute cette très longue période entre l'épisode alexandrin et les dissections qui commencent à être pratiquées en Italie du Nord, en particulier vers 1275-80, l'intérieur du corps est expliqué, est perçu sur d'autres bases et en fonction d'autres idées, médicales notamment, mais pas que. Il n'y a pas un lien nécessaire et exclusif entre intérêt pour l'intérieur du corps et dissection anatomique.
Véronique Boudon-Millot, entre Alexandrie et le XIIIe siècle, on ne disséquera plus de corps humain, mais entre les deux, au IIe siècle après Jésus-Christ, il y a Galien.
Avec Galien, c'est que Galien va avoir lu, compris, approfondi tout ce qui avait été fait avant lui. Très grand lecteur d'Aristote, très grand connaisseur aussi d'Hérophile et Erasistrate, sur lesquels il a écrit des traités. Les progrès qui avaient été faits par la médecine, Galien en est complètement pénétré de tous ces progrès. Et lui-même, parce qu'il a une formation tout à fait exceptionnelle pour l'époque, parce qu'il avait une fortune personnelle qui lui a permis de voyager tout autour du bassin méditerranéen et de se former auprès des meilleurs maîtres, va être capable de pratiquer avec une dextérité sans doute tout à fait unique des dissections très délicates. Donc évidemment, son modèle privilégié, ce sont les mammifères. Il dit aussi que plus l'animal se rapprochera de l'homme et plus l'anatomie se rapproche de l'anatomie humaine. En même temps, il n'a pas toujours la possibilité d'utiliser par exemple le singe, qui évidemment est le premier candidat puisque c'est le plus proche de l'anatomie humaine. Galien est un médecin grec qui écrit en grec, mais qui va faire carrière à Rome. Et pour faire venir un singe à Rome, c'est certes possible, mais enfin, il faut s'en procurer, c'est cher. Et aussi, on le sent gêné de pratiquer précisément la vivisection sur le singe. Parce que il est pénible, dit-il, de voir dans les yeux du singe vivant, quand il vous regarde et que vous êtes en train de lui ouvrir le ventre ou de lui faire pire encore, c'est une vision extrêmement pénible, même pour un médecin. Donc on va avoir à faire un choix, et en fonction d'autres critères que la proximité avec l'humain. Et on va voir comme critère, selon ce que l'on veut montrer, par exemple pour la production de la voix, le fait que ce soit un animal qui crie fort. Et un animal qui crie fort, pour son malheur, à l'animal en question, c'est par exemple le cochon. Et c'est un cochon que l'on va choisir pour les expériences sur la voix. Et en étant, alors il faut imaginer évidemment l'animal vivant. Je dis l'imaginer parce que le médecin s'attarde peu, là aussi, sur les détails matériels. Donc on voit simplement, si je puis dire, le résultat, c'est-à-dire qu'en ligaturant à tel ou tel endroit ce nerf récurrent, puis en relâchant les liens qui ont été mis en place, eh bien on peut obtenir que d'un seul coup, l'animal est sans voix, puis on relâche, il retrouve la voix, puis on relâche, ou on tire plutôt, et de nouveau il est aphone. Et c'était des expériences qui étaient tout à fait saisissantes, et ces expériences attiraient un large public, à la demande toujours de ces personnages, du cercle de l'empereur, protecteur de Galien, dont certains venaient le voir en lui disant « Moi, je n'ai jamais vu de dissection, peux-tu m'en organiser ?» Où il va promettre, s'engager à démontrer des mécanismes qui étaient aussi mystérieux pour son auditoire, que par exemple la production de l'urine, certains médecins pensaient que l'urine était sécrétée par la vessie. Galien va montrer très précisément qu'il n'en était rien. Il va montrer aussi, contre l'opinion d'Érasistrate qui pensait qu'il y avait du sang dans les veines mais de l'air dans les artères, là encore qu'il n'en est rien. Et ainsi, Galien va faire tomber, si je puis dire, pas mal d'erreurs anatomiques, et il va asseoir ainsi son autorité non seulement sur l'anatomie de son temps et sur la médecine de son temps, mais aussi sur celle des siècles qui suivront.
Galien théorise cela en disant à quoi sert l'anatomie, au fond.
Vincent Barras.
C'est un motif quasiment théologique, c'est d'observer le corps de l'homme, c'est l'image du corps de la divinité. Et l'observer, c'est contempler la beauté ultime. Et donc, il y a une réflexion esthético-théologique, on pourrait dire, où on devient sage en regardant le parfait ordonnancement de ce corps, de ses rapports entre les organes. Et ça nous donne une image de la perfection divine. C'est un usage aussi donc philosophique, puisque le philosophe, sur cette base-là, peut spéculer sur la beauté, la vérité des choses et du monde et de l'humain. Et il y a un usage médical, troisième usage, qui est l'usage très utile, pas à tous les médecins, nous dit Galien, mais aux chirurgiens, parce que c'est comme ça qu'ils apprennent comment les os sont disposés, comment on peut réduire des fractures, comment on peut suturer des plaies ou en tout cas remettre en place des organes qui se seraient déplacés à la suite de traumatismes ou toutes sortes de d'événements. Voilà, celui qui manie le couteau, le scalpel et sur le vivant a obtenu ce savoir grâce à sa parfaite connaissance de ce qu'il a appris sur le mort.
Je crois que c'est un processus qui, à cette époque, à partir du XIIe siècle, par l'effet de la réception d'un certain nombre de textes médicaux dans l'Europe latine, donc dans l'Europe occidentale, des textes médicaux de l'Antiquité, Galien, et des textes de médecine arabe qui reconfigurent, disons, l'architecture du savoir médical en posant la connaissance anatomique comme la base de tout savoir médical.
Raphaël Mandressi.
Ce réaménagement des principes, d'une certaine manière, de la médecine à cette époque-là, rencontre des pratiques existantes d'ouverture des corps, mais à d'autres fins. Par exemple, les examens post-mortem, en vue d'éclaircir les causes de la mort d'un individu, ou les embaumements des grands personnages, ou encore les recherches de marques de sainteté à l'intérieur des corps lorsque il s'agit de procès de canonisation. Bref, il y a toute une série de pratiques qui, sur le plan technique, correspondent à ce que les dissections seront. Sauf qu'on ne peut pas les qualifier de dissections. C'est-à-dire que si on devait définir une dissection anatomique, on pourrait dire qu'il s'agit de l'ouverture systématique et méthodique de corps humains morts à des fins de connaissance. Par exemple, le premier texte d'anatomie qui nous est connu, rédigé en 1316, par un professeur de Bologne, de l'université de Bologne, nommé Mondino degli Uzzi. C'est un manuel de dissection qui a vocation à servir de support pour la réalisation des dissections anatomiques. Le versant pédagogique à l'intérieur des universités, puisque c'est là que ça se passe pour l'essentiel, est une composante fondamentale de l'avènement et du développement des dissections anatomiques, puisque au fil du temps, cela va se généraliser, bien entendu. Enfin, ça commence dans certaines villes de l'Italie du Nord, Bologne très particulièrement, mais très rapidement, elles deviennent, en tout cas, quelque chose de régulier dans les écoles de médecine.
L'homme se tient debout parce que, parmi tous les animaux, l'homme est fait de matière très légère et aérienne, parce qu'il porte une plus grande chaleur naturelle, qui a tendance à s'élever vers les étages supérieurs, parce qu'il partage sa forme parfaite avec les anges et les intelligences qui gouvernent le monde, et surtout parce qu'il est fait pour comprendre, et cela grâce à ses sens, particulièrement de la vue. Chez l'homme, la vue, le cerveau et donc la tête doivent se trouver là où aboutissent les sensations. L'on voit mieux d'en haut. C'est pourquoi les yeux occupent une position élevée, comme les gardiens d'une ville postés sur une tour. Voilà les quatre raisons pour lesquelles l'homme se tient debout et s'appelle pianta reversa, ou petit monde. Parce que, comme le monde et l'univers, il a un dessus et un dessous. Mondino di Liuzzi, Anatomia, Bologne, 1316.
Ceci étant, les descriptions du corps humain sont de plus en plus fines et non pas d'application possible pour la médecine de l'époque. Autrement dit, il n'y a pas, pour l'essentiel, un usage thérapeutique possible des connaissances anatomiques qui sont produites à l'époque. Alors, bien sûr que certaines connaissances anatomiques sont très utiles pour les chirurgiens, ça évite d'intervenir dans des lieux où des accidents peuvent se produire, couper un nerf ou une artère. Mais cela reste assez limité, au fond, comme l'est, de fait, la chirurgie de l'époque. Quand on parle de chirurgie à la fin du Moyen-Âge et pendant presque toute l'époque moderne, il ne faut pas penser à des opérations profondes de la chirurgie viscérale. Ça consiste à réduire des fractures, des luxations, à ouvrir les apostèmes, à des saignées, ou des amputations, bien sûr. L'opération la plus spectaculaire, au fond, pendant très longtemps, étant celle de la dite de la taille, donc pour la maladie de la pierre, des calculs vésicaux ou rénaux. Ça, c'est la grande opération, c'est la grande performance de chirurgie interne. Mais pour le reste, voilà. Donc, le savoir anatomique, au fond, devient très vite un savoir qui se justifie pour lui-même. Et si on voit les premiers chapitres des traités, où la plupart du temps sont déclinées les utilités de l'anatomie, ce n'est pas la médecine et ce n'est pas la chirurgie qui apparaissent en premier. La première chose qui apparaît très souvent, c'est l'anatomie est utile parce qu'elle permet de connaître l'homme. Donc c'est un savoir sur le corps qui, par synecdoque d'une certaine manière, devient un savoir sur l'homme. Et étant donné que l'homme est créé à l'image de Dieu, il y a une christianisation très rapide de l'anatomie, donc très loin des idées de l'interdiction et des méfiances ecclésiastiques, puisque l'anatomie permet de tenir un discours édifiant. Connaître l'homme, c'est connaître son créateur.
Et on nous raconte qu'on a fait ouvrir le cadavre de tel et tel pour savoir s'il est mort d'une mort naturelle ou si, et donc on examine son cœur ou son foie ou ses intestins, et on le fait également sur des papes. Autrement dit, la question continuellement répétée que l'Église interdit la dissection est un mythe parfait, puisque l'Église permet même que, dans ce contexte-là, que l'on ouvre le corps des papes, parce qu'évidemment, entre papes, il y a des papes concurrents, comme on le sait, c'est pas si simple que cela, et on s'empoisonne gentiment, ou on se fait des petits coups tordus, comme un peu partout, et donc dans certains cas, il s'agit de savoir de quoi est mort le pape, pour savoir si il a pas été descendu par son rival, l'antipape, ou voilà, je simplifie un peu, il y a tout un folklore là autour, mais il y a aussi une réalité qui est celle d'une pratique du cadavre à des buts médico-légaux, qui donc est une façon de continuer et de réinstaurer de façon un peu systématique dans les universités l'apprentissage de l'anatomie, y compris avec des cadavres, sur des cadavres.
Donc il y a des poumons qui sont tachés, qui sont noirâtres, c'est de l'anthracose, hein, c'est le... sans doute un monsieur qui fumait. Et puis ici, cette coloration plus sombre du poumon à la face postérieure, ben ce sont les lividités, mais au niveau des viscères, les mêmes que l'on avait sur la peau. Mais...
Renaud Bouvet.
Et quand on ouvre ici la bronche souche droite, on voit qu'elle est tapissée de suie. Ce qui est un indice vraisemblable du fait qu'il est respirer dans le foyer d'incendie. Donc on enlève les deux poumons là. Et à l'ouverture de la bronche souche gauche, de la même manière, on a des suies. Les artères pulmonaires sont libres, il n'y a pas d'embolie pulmonaire. Voilà. On va maintenant pouvoir enlever le cœur. Donc. Il n'est pas à gauche, hein. Il est au milieu, protégé derrière le sternum, qui fait un bouclier. Donc on ouvre le péricarde, qui est cette enveloppe qui contient le cœur. Voilà, je fais une incision là au ciseau, en T. Ça rendrait fou nos collègues chirurgiens thoraciques, hein, de nous voir faire ça. Bah parce que c'est eux, ils s'aventurent dans ces endroits-là avec une prudence absolument extrême. Hein, une minute d'inattention, un millimètre d'écart, et c'est la catastrophe. Bah nous, on a pas ces soucis-là. Donc là, on va ôter le cœur en sectionnant les gros vaisseaux. Donc ici, la veine cave inférieure. Voilà. Ici, la veine cave supérieure. Donc on a, ce faisant, là, on a libéré le l'oreillette droite. On va maintenant libérer l'artère pulmonaire et qui est le gros vaisseau qui part du ventricule droit et l'aorte qui est le gros vaisseau qui part du ventricule gauche. Et puis on termine par les quatre veines pulmonaires qui se jette dans l'oreillette gauche.
L'idée selon laquelle porter atteinte à l'intégrité du corps pourrait compromettre la résurrection du corps telle qu'elle figure dans le credo chrétien est démentie explicitement par toute une série de textes chrétiens, en particulier des pères de l'Église. Avec un argument parfaitement raisonnable d'ailleurs, à savoir ce que Dieu a pu créer à partir de rien, il peut le recréer a fortiori à partir de ces éléments, même s'ils sont épars. Donc il n'y a ni des arguments théologiques, ni des dispositions juridiques qui aient pu rendre incompatible ou difficile le rapport entre la religion chrétienne et la dissection consistant donc à manipuler et découper un corps mort. Le savoir anatomique est christianisé sans aucune difficulté et très rapidement. Et des dissections se pratiquaient dans des chapelles. Voilà, si on veut une preuve vraiment flagrante et manifeste qu'il n'y a pas de conflit à ce sujet, c'est bien ça. Cette idée-là est une idée qui a été construite au XVIIIe siècle. C'est un faux, en fait. Il y a une expression qu'on évoque parfois, selon laquelle l'Église a horreur du sang. C'est un faux, c'est un fake. Au fond, l'anatomie, au bout de la chaîne, conduit à la connaissance de Dieu.
Alors, le nom connu, sinon de tous, en tout cas un peu du grand public, c'est Vézal, médecin belge, travaillant en Italie, à Bologne et à Padoue, et pratiquant la dissection de l'anatomie. C'est le grand nom qui laisse une œuvre parue en 1543, La fabrique du corps humain, De Humani Corporis Fabrica. C'est le grand nom de l'anatomie médicale occidentale. C'est que lui maîtrise très bien une autre innovation technique qui est celle de l'imprimerie. Et l'imprimerie permet la reproduction à de nombreux exemplaires de choses inscrites sur du papier. Qu'est-ce qu'on peut inscrire sur du papier ? C'est à la fois un savoir, des mots, et c'est aussi du dessin, des gravures. Voilà ce que c'est que la dissection désormais. C'est pas seulement juste être devant un cadavre, c'est être devant un cadavre, le disséquer, tout en le disséquant, avoir à côté de soi la feuille de papier sur laquelle on inscrit ce qu'on voit et la consignation précise de ce processus sur la page. Donc c'est à la fois hautement virtuose du point de vue littéraire et artistique, si on veut. Et c'est cet assemblage de l'un et de l'autre qui fait que l'on devient un bon anatomiste. Et donc l'activité du graveur est, avec son stylet, est aussi importante que celle de l'anatomiste avec son bistouri. Il y a quelque chose d'une analogie entre dans la précision de l'un et l'autre qui fait la qualité de la science anatomique à partir de la Renaissance. L'image de, c'est le frontispice du défabrica de Vézal, De Humani Corporis Fabrica, de la fabrique au sens de la construction, comment est construit le corps humain, où on voit Vézal. À la différence donc des gravures qui précèdent dans la tradition iconographique occidentale celle-ci, où le médecin est le professeur d'anatomie est sur sa chaire, et c'est les chirurgiens qui découpent le cadavre, là, Vézal veut montrer une rupture par rapport à cette tradition, et se représente lui-même, est représenté lui-même à côté du cadavre, un cadavre de femme, dont on voit que c'est l'abdomen, le bas-ventre qui est ouvert, et Vézal... ici, a placé à côté de lui des instruments pour écrire. Moi, tout près du cadavre, moi anatomiste, donc tout près de la source du savoir, et pouvant la retranscrire le plus immédiatement possible. Alors il y a ce phénomène-là qui est extrêmement intéressant, puis il y a aussi tout le contexte, à savoir, nous sommes dans un théâtre d'anatomie, et c'est un peu la comédie humaine, si vous voulez, c'est pas forcément le public réel d'étudiants assistant à ces anatomies. Toujours est-il qu'on sait qu'effectivement assiste à ces anatomies pas seulement les étudiants en médecine, mais tout le public et la bonne société. C'est un spectacle, c'est un vrai théâtre. On va au théâtre, littéralement, voir un spectacle Et hommes et femmes de la bonne société italienne se rendent lorsqu'il y a une anatomie. C'est souvent en hiver, parce que c'est là où il fait froid, où les cadavres se conservent plus longtemps. Une anatomie peut durer plusieurs jours, n'est-ce pas? C'est très long d'anatomiser. On commence par le haut. Demain, on verra plus bas. Et après-demain, revenez, mesdames et messieurs, parce qu'on sera arrivé à l'utérus, par exemple. Hein. Il y a une progression dans la découverte de ce corps. Et donc une dramaturgie aussi, comme une pièce de théâtre, acte 1, acte 2, acte 3. Et les gens viennent, et c'est un spectacle de haut divertissement, d'une certaine façon, à la fois où on vient admirer la beauté divine, l'ordonnancement majestueux de la nature et la parfaite régularité, la symétrie des organes, l'agencement magnifique, et que l'anatomiste qui joue le rôle de Monsieur Royal. Regardez ici, je vous montre là, voyez les deux reins. Et maintenant, mesdames et messieurs, attention, roulement de tambour. Il devait y avoir quelque chose d'une dramaturgie formidable dans cette dissection-là. Et le public là est un public de spectateurs qui vient se divertir aussi.
Il faut rappeler que, à cette époque-là, je veux dire, jusqu'au 19e siècle, au début du 19e siècle, un chirurgien n'est pas un médecin. Ce sont deux professions différentes. Déjà, les chirurgiens ne sont pas des universitaires, alors que les médecins, eux, le sont. Ce sont des artisans, donc une corporation, et qui sont formés, comme n'importe quel artisan, par un apprentissage avec un maître et un apprenti qui se termine par un chef-d'œuvre, qui sanctionne donc l'entrée de l'individu dans la corporation. Et il y a un rapport hiérarchique au sommet duquel on trouve les médecins. Les chirurgiens sont très souvent ceux qui pratiquaient la dissection concrètement, sous la conduite d'un médecin.
Ces derniers, à la façon des jets, parlant de choses qu'ils n'ont jamais abordées de près, mais qu'ils ont prises dans les livres et confiées à leur mémoire sans jamais regarder les objets décrits, plastronnent, juchés sur leur chair. Celui-ci, qui n'a jamais mis la main à une dissection, se contente de son commentaire et mène sa barque en pilote ombrageux. Ainsi, tout est enseigné de travers. Et on présente aux assistants moins de choses qu'un boucher à l'abattoir ne pourrait en montrer à un médecin. L'abandon au barbier de toute la pratique fit non seulement perdre au médecin toute connaissance réelle des viscères, mais aussi toute habileté dans la dissection, à tel point qu'ils ne s'y livrèrent plus. Cependant, les barbiers à qui ils avaient abandonné la technique étaient tellement ignorants qu'ils étaient incapables de comprendre les écrits des professeurs de dissection. Vesal, De Humani Corporis Fabrica.
Et à partir de Vesal ou de la Renaissance, ceux qui dissèquent, c'est des intellectuels, c'est-à-dire c'est eux qui se mettent devant le cadavre. Et qui réhabilite au fond la grandeur quasi divine de ce qu'on observe. Galien déjà le disait, on s'en souvient, l'anatomie est utile pour celui qui veut contempler les œuvres de Dieu. Et cette fois-ci, il y a une sorte de réhabilitation du métier d'anatomiste qui devient extrêmement prestigieux, puisque c'est celui qui a accès à la connaissance, à la vision divine quasiment, la perfection de l'humain étant censée représenter ce qui est le plus beau sur la Terre. Je suis pas loin de penser la même chose, moi-même ayant pratiqué pas seulement la dissection, effectivement il y a une sorte de beauté extraordinaire à contempler cet intérieur, qui va de pair avec le dégoût qu'on peut avoir en même temps. Alors, à la Renaissance, dans un contexte plus large, où l'esprit européen, et non seulement l'esprit, mais les armées européennes envahissent le reste du monde, les Amériques et d'autres choses, où il y a une sorte d'ouverture, où où la science nous dit c'est plus le soleil qui tourne la Terre qui tourne le soleil qui tourne autour de la Terre, mais l'inverse. Bref, où des savoirs fondamentaux scientifiques sont mis en place, la fascination pour le corps humain et la médecine participent de ce vaste mouvement. C'est l'âge d'or de l'anatomie, c'est ce que les historiens de la médecine ont décrit comme l'âge d'or de l'anatomie, effectivement, du 16e au 18e siècle. C'est l'âge d'or parce que c'est là que les peintres, comme Rembrandt, peignent cela. C'est là que les imprimeurs impriment des chefs-d'œuvre. Et c'est ça l'âge d'or de l'anatomie. Et c'est l'époque des noms qui laissent leur nom dans le corps. Plein d'anatomistes découvrent ou précisent ou décrivent mieux que d'autres. Eustache, par exemple, décrit la trompe d'Eustache. Sylvius, le canal de Sylvius, etc., etc. Moi, je suis plein, et vous aussi, et tout le monde est plein de noms propres d'anatomistes de cet âge d'or, du 16e, 17e siècle, dans mon corps, qui désigne telle part de diverticule de Meckel, la trompe d'Eustache, etc., etc.
En particulier, Paris devient le centre du savoir anatomique européen à cette époque-là, en raison de certains changements qui sont introduits dans la formation des médecins. Notamment, le fait que tous les étudiants en médecine devaient avoir une pratique de dissection avec un cadavre. Donc, la question du cadavre devient extrêmement cruciale puisqu'il s'agit de fournir en corps mort tout un chacun. Donc, la demande explose et il faut que l'offre suive. Et vous avez des phénomènes de développement de marché noir, des profanations de tombes, les vols de cadavres dans les cimetières, enfin, toute une série de... qui répond à une sorte d'explosion d'une mode. On la retrouve partout, dans des cercles aristocratiques où des gens se promènent avec une oreille dans la poche pour la faire voir en bonne compagnie. Voilà, ça dit beaucoup aussi de rapports au corps et au cadavre historiques qui sont évidemment très très loin de ceux qui sont les nôtres aujourd'hui. Ce n'est pas n'importe quel corps qui peut être disséqué, bien entendu. Il y a une distribution sociale des corps bons à disséquer. Des corps d'inconnus, de criminels ou d'étrangers. Des individus qui doivent venir de plus de 80 km de la ville. En gros, des gens qui sont en dehors de leur communauté. Surtout pour les dissections publiques, ce qu'il faut éviter à tout prix, c'est que quelqu'un parmi les spectateurs puisse reconnaître un proche qui est en train d'être dépecé publiquement, parce que ça porte atteinte à la dignité, non pas du mort, mais des vivants qui ont été proches de lui. C'est ça qu'il faut absolument, absolument éviter.
Donc là, on va explorer donc la cavité crânienne. Donc on réalise une grande incision... bimastoïdienne. La mastoïde, c'est ce petit os là qui est derrière l'oreille, donc d'une oreille à l'autre en passant par le vertex, donc le sommet du crâne. Alors vous voyez, j'ai commencé au scalpel, là, puis je poursuis au doigt, ça s'appelle la digitoclasie. Quand ça se décolle bien, c'est aussi simple. Les plans de clivage se font naturellement. Voilà.
C'est comme un scalp en fait.
C'est exactement ça. On fait un scalp, voilà. Donc là, je vais récliner le scalp en arrière, là, jusqu'à la protubérance occipitale. Et puis en avant, quasiment jusque au rebord des orbites que je sens là. Donc voilà le crâne. Voilà, donc là, j'enlève le muscle temporal gauche. Je le dissèque pour un problème de fond, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est un tissu mou de la tête, là. Et il m'intéresse de voir s'il y a du sang dedans, qui pourrait témoigner d'un traumatisme. Donc on va maintenant utiliser la scie oscillante. Ça va faire un petit peu de bruit.
Enlève la totalité du cerveau pour voir les deux méninges inférieurs qui recouvrent l'os basilaire, fondement du cerveau et de la tête. Enlève-les et tu trouveras, près du collecteur, le réseau admirable, un tissu de textures denses, multiplié miraculeusement par de très fines artères entremêlées, dépendant de deux branches des artères apoplectiques ascendantes. Ce réseau renferme l'esprit vital qui monte du cœur au cerveau pour y être converti en esprit animal. Mondino de Liuzzi, Anatomia, Bologne, 1316.
La connaissance parfaite du corps dont peuvent se prévaloir les chirurgiens va leur donner un statut épistémologique suffisamment digne cette fois-ci pour pouvoir prétendre rivaliser avec les médecins, ou en tout cas se tenir à l'égal des médecins. En tout cas, ça correspond à leur volonté sociale de se départir des métiers de basses œuvres et de devenir des médecins à part entière. C'est un processus qui aboutit au 19e siècle, où légalement, il n'y a plus qu'une profession, la profession de médecin chirurgien. Ça influencera aussi énormément, de façon globale, le parcours de la médecine, qui, à partir de ces siècles-là, mais vous voyez, quand on dit, c'est pas une date précise, c'est un long processus, est une médecine qui deviendra, en tout cas en Occident, définitivement localiste. C'est-à-dire une médecine qui ne peut pas concevoir la maladie, parce qu'après tout, la médecine, c'est moins le fait de connaître le corps que de connaître la maladie. Comme médecin, on est là plutôt pour guérir les gens, plutôt que pour dire, s'amuser à aller trouver une petite structure au fond de l'abdomen. Guérir la pathologie et la connaissance des maladies, au 19e siècle, ça sera définitivement savoir l'origine, le lieu dans le corps dans lequel se trouve le siège de la maladie. Ce qu'on appelle l'anatomopathologie, l'anatomolocalisme. Je suis malade, j'ai la fièvre, d'accord, mais c'est où la fièvre? Non, il faut trouver l'endroit où se trouve l'infection à cause de cette fièvre qui est au fond de ma gorge, par exemple. C'est pas la fièvre dont je suis malade. Et ça, c'est au fond une pensée anatomique qui permet ça. Et cette pensée anatomique, c'est celle qui est... c'est l'âge d'or de l'anatomie du 16e au 18e siècle.
L'anatomie s'installe, devient le savoir sur le corps par excellence. Le corps est promu à travers la pratique et le savoir anatomique au centre d'un système de savoir, d'une manière de connaître qui dépasse la connaissance du corps. Autrement dit, une pensée anatomique se développe à propos de toutes sortes d'objets. Le point de départ, c'est bien sûr le travail sur le corps. Mais l'anatomie étant donnée, enfin par ses caractéristiques essentielles, c'est un savoir qui procède par découpage, donc par fragmentation, division d'un tout en parties. C'est un savoir qui est de l'ordre du visuel et du spatial même. Le corps est conçu comme un espace et qui ne s'intéresse pas au fluide, au liquide. C'est un savoir sur les parties solides du corps. Tout ceci configure une manière de connaître, encore une fois, et en particulier la question de la fragmentation est à ce titre fondamentale. Connaître, c'est diviser. C'est décomposer un objet en ses parties, jusqu'à la plus petite partie qui le compose. Donc c'est une suite de divisions pour aller à la recherche de la partie ultime, de la partie élémentaire. Et vous avez, pendant toute l'époque moderne, l'usage de l'expression anatomie appliquée à toute une série de discours ou d'objets, parce que on va faire l'anatomie du monde, ou l'anatomie d'un discours, ou l'anatomie de l'âme de quelqu'un, et ainsi de suite, l'anatomie de la Grande-Bretagne. Et donc ça devient métaphore non pas des objets en eux-mêmes, mais de la manière de s'en saisir. Et ce n'est que, encore une fois, vers la seconde moitié du XVIIIe siècle, que le terme anatomie va être petit à petit remplacé par un terme qu'on utilise encore aujourd'hui, qui est celui d'analyse, mais qui renvoie exactement à la même opération. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, de temps en temps, on retrouve cette métaphore anatomique, anatomie de telle ou telle chose. Ce à quoi cela renvoie, c'est d'une part à... on va
décomposer cela, on va le découper en ses parties. Et l'anatomie, ça renvoie également à voir au-delà des apparences, à voir au-delà d'une frontière qui rend opaque une vérité qui se trouve derrière cette frontière.
C'est très dur, le crâne. On a besoin de la scie. Et puis là, on voit à la surface du cerveau cette petite membrane là, qui ressemble à une toile d'araignée et qui s'appelle l'arachnoïde, voilà. Qui est l'une des trois méninges. Donc il y a la durmère, l'arachnoïde et puis la pimère. Donc là, l'idée, c'est de mobiliser l'encéphale, c'est-à-dire le cerveau, le tronc et le cervelet en un seul bloc. Donc pour ce faire, on va sectionner les gros nerfs qui partent du cerveau. Donc là, je sectionne les nerfs optiques, je sectionne juste en dessous les artères carotides internes, et puis après, voilà, je sectionne les autres nerfs. Et ça me permet, voilà, il reste le tronc basilaire qui est coupé, ça me permet de sortir d'un bloc, donc, tout l'encéphale. Voilà.
En découpant soigneusement le cerveau en son milieu, tu parviendras au grand ventricule antérieur. Note que ce ventricule est divisé en ventricules latéraux qui s'étendent jusqu'à la base. Sépare le droit du gauche. Dans l'angle antérieur se loge la fantaisie, la faculté qui retient les images reçues par des sens particuliers. Dans l'angle postérieur, c'est l'imagination qui traite les images reçues par la fantaisie, en discernant ceci de cela, ce qui fait de l'homme un être rationnel. Ici se termine l'anatomia, ou dissection du corps humain.
Anatomie de la dissection, avec Vincent Barras, médecin et historien de la médecine à l'Université de Lausanne, Raphaël Mandressi, directeur de recherche au CNRS, spécialiste de l'histoire de l'anatomie, Renaud Bouvet, chef du service de médecine légale et pénitentiaire du CHU de Rennes, et Véronique Boudon-Milo, directrice de recherche au CNRS, spécialiste de la médecine grecque. Merci au CHU de Rennes. Lecture de Anatomia de Mondino Di Luzzi, Laurent Lederer. Prise de son, Alexandra Bergel. Documentaliste, Anne-Lise Signoret. Attachée de production, Marie-Vonne Abolivier et Anaï Morales. Coordination, Perrine Kervran. Un documentaire de Stéphane Bonnefoy, réalisé par Yvon Croisier.